10h, France Bleu La Rochelle, à votre service.
À votre service, jusqu'à 10h sur France Bleu La Rochelle. Bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver. Ce matin, nous recevons Patricia Claes. Elle est coach en développement professionnel, Elios Coach. Et on va parler des hauts potentiels intellectuels. Bonjour Patricia.
Bonjour Dorian.
Ravi de vous accueillir. Alors les hauts potentiels intellectuels, on y reviendra dans quelques minutes. Mais quelle est la définition exacte que l'on peut apporter?
Alors le haut potentiel intellectuel, c'est une caractéristique qui fait partie de ce qu'on appelle la diversité cognitive. Dans la diversité cognitive, qui touche environ 20% de la population, on va retrouver le trouble du déficit de l'attention, on va retrouver les troubles 10, la dyslexie, dyspraxie, donc le haut potentiel intellectuel, le trouble du spectre autistique également. Donc voilà, là c'est à peu près 20% de la population, et l'hypersensibilité, il ne faut pas que j'oublie l'hypersensibilité. Mmh. Et le haut potentiel intellectuel va concerner 2 à 3% de la population. Alors je peux vous donner quelques caractéristiques que recouvre le haut potentiel.
Dans quelques secondes, ça vous va?
Très bien, parfait.
Si vous avez des témoignages, vous avez un enfant peut-être HPI à la maison, vous êtes vous-même haut potentiel intellectuel et vous voulez nous raconter votre histoire, 05 46 50 67 68. Patricia, donc, justement, quels sont les différents haut potentiel intellectuel possible?
Alors, ce qu'on va effectivement qualifier de haut potentiel intellectuel, ce sont les personnes qui ont un QI, donc un coefficient intellectuel, au-delà de 130, et qui ont entre autres d'autres caractéristiques également, dont l'hypersensibilité, parce qu'on va dire c'est un peu un package, hein, le haut potentiel intellectuel, c'est pas uniquement un QI au-delà de 130, parce qu'on peut avoir également des personnes qui ont un coefficient intellectuel inférieur à 130, parce qu'ils sont concernés également par une autre caractéristique, le 10 ou le TDA, qui va effectivement impacter leur coefficient intellectuel. Voilà un petit peu comment on va caractériser quelqu'un qui est au potentiel intellectuel. C'est quelqu'un qui a des caractéristiques un peu particulières, donc qui va être très curieux. On va retrouver une grande curiosité chez le haut potentiel intellectuel, un grand besoin d'indépendance, très haut niveau d'énergie et surtout une capacité à penser ce qu'on qualifie out of the box, c'est-à-dire à avoir des idées innovantes, une grande créativité, donc des idées innovantes qui peuvent se retrouver dans les entreprises, qui peuvent se retrouver dans la vie courante. C'est vraiment une capacité à se dire, à chercher des solutions que, je dirais, le reste des personnes n'auraient pas forcément trouvées. Voilà ce qu'on va retrouver sur le haut potentiel. Forte sensibilité, du non-conformisme également, une capacité d'observation sur des petits détails. Un attachement aux mots aussi. Le mot a son importance. Les hauts potentiels vont aimer les mots, vont aimer utiliser des mots nouveaux. Chez les enfants, on va trouver un grand vocabulaire, par exemple, beaucoup de vocabulaire. Ça va être des enfants qui vont parler très tôt, qui vont être très curieux, qui vont être sensibles. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un humour décalé qu'on va retrouver également chez les hauts potentiels. Et puis chez les enfants, une des caractéristiques aussi, c'est aller à la recherche des personnes plus âgées, des personnes plus matures. C'est des enfants qui vont se tourner vers les adultes, vers les personnes du troisième âge, et qui vont pas rester uniquement dans leur environnement scolaire, on va dire, avec les enfants de leur âge.
Et pour quelle raison, justement? Pour s'enrichir, peut-être?
Ça va être pour s'enrichir, puis c'est aussi une maturité qui n'est pas forcément la même que celle des enfants de leur âge. Mmh. Donc ça va retrouver ça chez les enfants. Beaucoup de stimulation aussi, ce sont des personnes qui peuvent s'ennuyer très rapidement, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes dans l'entreprise. On parlera peut-être un petit peu des caractéristiques de l'entreprise tout à l'heure.
Ouais.
Mais les enfants, c'est les enfants qu'on peut aussi bien retrouver près du radiateur, qui vont regarder dehors. Voilà, les enfants qui vont s'ennuyer, qui au bout d'un moment vont un petit peu animer la classe, ce qui va pas forcément être ça va pas forcément plaire aux enseignants. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi tous ces enfants qui sont un peu décalés, qui sont un petit peu qui vont s'ennuyer très vite et à qui on va dire aussi, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances dans la classe, on va leur dire écoute, tais-toi, parce qu'ils savent plein de choses, et au bout d'un moment on va plus les laisser répondre aux questions, parce qu'on va leur dire toi tu sais déjà, laisse répondre les autres. Donc ces enfants qui vont se mettre en retrait et qui peuvent effectivement du coup faire un peu le bazar entre guillemets dans la classe.
D'accord. On y reviendra tout à l'heure, mais on le disait en introduction, HPI, on parlait de la série, la fameuse série de TF1 avec Audrey Fleurot. Est-ce que c'est assez proche de la réalité ou on n'y est pas du tout?
Alors, je ne vous cacherai pas, Dorian, que je n'ai pas regardé la série, parce que je craignais un peu les clichés.
Okay.
De ce que j'ai entendu dire, c'était une très bonne série.
Ouais.
C'est une très bonne série, mais il y avait malgré tout des clichés, parce que voilà, le potentiel, on peut le retrouver dans toutes les sphères de la population. Il n'y a pas de prédisposition. Alors, ce que je souhaite souligner également, c'est que l'on est, du verbe naître, au potentiel, et puis on finit sa vie en étant au potentiel. c'est pas quelque chose, je veux dire, quelqu'un pourrait...
Qui apparaît du jour au lendemain.
Qui apparaît, ou en travaillant des tests de logique, je vais finir par devenir haut potentiel. Enfin, non, et puis je dirais surtout, ce n'est pas un objectif de vie. Je dirais, les personnes haut potentiel, c'est pas forcément non plus toujours très agréable.
Absolument, vous avez bien raison. Si vous avez, vous, des témoignages à la maison, vous êtes haut potentiel depuis des années, vous connaissez des personnes à haut potentiel, ou même vos propres enfants, vous voulez nous raconter votre histoire, 05 46 50 67 68, on vous attend.
Vous aussi, racontez-nous votre histoire. France Bleu La Rochelle à votre service, jusqu'à 10h. 05 46 50 67 68.
Et on continue dans un instant avec Patricia, notre invitée, de découvrir les hauts potentiels intellectuels. À votre service, jusqu'à 10h, on parle ce matin des hauts potentiels intellectuels, les HPI, avec Patricia Kless, un coach en développement professionnel qui nous accompagne et qui connaît très bien le sujet. Si vous avez si vous souhaitez, vous, à la maison, nous raconter votre histoire, peut-être que vous avez des hauts potentiels intellectuels autour de vous, peut-être que vous en avez connu, ou alors vous êtes vous-même haut potentiel, n'hésitez pas à venir nous en parler, 05 46 50 67 68. Et c'est ce qu'a fait Christian qui nous rejoint. Bonjour Christian.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à nos côtés sur France Bleu La Rochelle. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez, vous, 70 ans, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Vous avez découvert votre haut potentiel il y a tout juste un an.
Ben, j'ai été détecté, oui, il y a 69 ans.
Alors, racontez-nous comment ça s'est passé.
Eh ben, je suis en suivi psychologique.
Ouais.
Et au fur et à mesure des entretiens avec ma psychologue, un jour on m'a dit ça fait longtemps. Vous êtes HPI, donc ça m'a permis de comprendre, de mieux me comprendre, de comprendre les autres aussi. Mmh. Et ça m'a permis d'avancer un petit peu. Voilà.
Mais est-ce que vous aviez eu des signaux avant qui vous ont fait penser que vous étiez peut-être HPI ou pas du tout ?
Non, aucun. J'étais vraiment extrêmement loin de penser que j'étais HPI. J'étais très très loin.
Justement, c'est un témoignage intéressant ça, Patricia.
Oui, tout à fait, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes effectivement qui s'ignorent, qui vont se sentir, par exemple, en décalage avec le monde, mm-hmm. et puis ce qui va les amener, ou qui vont avoir une dépression, pourquoi pas, ce qui va les amener à consulter un psy, et c'est effectivement en échangeant, ou ça peut être aussi suite à un burn-out, hein, que des psychologues vont effectivement identifier que la personne peut être concernée par le haut potentiel intellectuel. Alors c'est peut-être ça, Christian, qui vous est arrivé ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu les deux, la dépression et puis le burn-out. J'ai fait les deux quasiment en même temps, quoi. Et voilà. Et puis au fur et à mesure, ma psychologue, dans la discussion, m'a dit voilà, c'est vous êtes HPI, donc voilà, c'est maintenant avec cette arme là vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous comprendre les autres, etc.
Et justement, en parlant d'avancement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez appris ce haut potentiel?
Je suis en train de prendre du recul sur disons d'être moins sur l'événement ou sur un sujet. Je vais plutôt prendre du recul maintenant en me disant autant essayer de réfléchir avant, plutôt que d'être toujours sur le qui-vive et sur le... J'étais toujours en écorché vif. Il y avait beaucoup de choses qui me gênaient dans ma vie, le manque de savoir-vivre, des choses comme ça.
Ouais, vous étiez un petit peu introverti. C'est un peu ça.
Oui, dans un sens, mais je pense surtout que j'avais besoin de... Comment je vais pouvoir dire ça ? J'avais besoin d'éclater, sauf que je ne voulais pas ou je ne pouvais pas, je ne sais pas encore. Mmh. Mais c'est surtout des colères à rentrer. Parce que il y a des lois et qu'on doit les respecter dans mon esprit et qu'on doit les respecter, qu'on doit vivre en société et qu'on doit faire attention à autrui.
Totalement. Voilà. Patricia, un conseil à Christian avant de lui dire au revoir.
Je trouve que le témoignage de Christian est très intéressant parce que effectivement, on n'a peut-être pas trop le temps d'échanger avec lui sur le sujet, mais ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est est-ce que ça lui a permis de rebalayer sa vie avec ce nouveau prisme et de mieux comprendre peut-être un petit peu son chemin de vie.
Bah justement, Christian.
Ah, il y a encore du taf.
On n'y est pas encore totalement, c'est ça?
Non. Il y a encore du taf. Mais oui, c'est vrai que j'ai avancé, mais je sais que j'ai encore d'autres choses à balayer un petit peu. Quoi.
Bon, bah, ça viendra
j'ai
en tout cas.
J'ai encore des ménages à faire. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, à 70 ans, il me reste encore 40 ans à vivre, donc j'ai pas de soucis. J'ai de quoi attendre.
40 ans, même plus, hein, qui sait?
Ah oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. J'ai mal calculé.
Bah, merci beaucoup, Christian, pour nous avoir raconté votre histoire. À très bientôt.
Bonne journée.
Merci à vous, merci beaucoup. Yolande nous rejoindra dans quelques instants. Son petit-fils qui peut diagnostiquer un haut potentiel chez l'enfant. Voilà, je vous laisse réfléchir à la question, Patricia, et on y revient dans quelques instants. On parlera aussi des idées préconçues sur les hauts potentiels intellectuels, puisqu'il y en a, et un paquet. Et on va essayer de démystifier un peu tout ça dans quelques instants sur France Bleu La Rochelle. À votre service jusqu'à 10h sur France Bleu La Rochelle avec Patricia Claes, un autre invité, coach en développement professionnel. On évoque les hauts potentiels intellectuels ce matin, les HPI. Et vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner au 05 46 50 67 68. Je propose qu'on accueille Yolande tout de suite. Bonjour Yolande.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
De Varzé.
À Varzé. Très bien. Alors vous voulez nous parler de votre petit-fils avant de poser votre question. Il est haut potentiel, c'est ça ?
Mais justement, on ne sait pas à qui le faire diagnostiquer, mais tout ce que vous avez décrit, c'est comme lui.
D'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dans son comportement ?
Il a 9 ans, il fait des colères, on dirait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il sait plein de choses, il a des difficultés avec les copains parce qu'il sait toujours plein de trucs, il apprend très vite, il veut être comme les grands, il veut faire... Il a des comportements qui sont surprenants, enfin voilà. Ce que vous avez décrit, je suis malvoyant, j'ai tout ce que vous dites, j'ai du mal à me relire.
Ouais.
Si vous voulez me poser des questions, nous ce qu'on veut savoir c'est à qui s'adresser, parce qu'ils ont déjà cherché, ils habitent près de Bordeaux, ils ont cherché des psychologues. L'une a dit, moi je sais pas ce que je pourrais faire pour lui, l'autre a dit, attendez, j'ai pas de rendez-vous avant fin mai. Mais ça fait un moment qu'ils se rendent compte de tout ça, mais ils savent pas à qui s'adresser.
Alors Patricia, est-ce que déjà ça peut ressembler à du haut potentiel ?
Ben je pense.
Dans ce que décrit Yolande.
Tout ce que vous avez décrit, c'est la même chose.
Ça peut, mais effectivement, la personne la plus apte à vous répondre sur ce sujet, Yolande, hein, ce serait alors moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller voir effectivement des psychologues, mais des psychologues spécialisés sur le haut potentiel intellectuel, hein, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, parce que c'est vraiment des caractéristiques que tous les psychologues ne connaissent pas forcément. Et puis, effectivement, du coup, ils peuvent essayer de vous ramener à ce qu'ils connaissent comme environnement, et voilà, le haut potentiel, c'est vraiment un package, on va dire, très particulier. Et puis ensuite, il y a des tests, hein, qui existent et qui sont des tests pour les adultes, des tests pour les enfants. Pour les enfants, on a un test qui s'appelle le WISC-5, et pour les adultes, c'est le WISC-4. Le psychologue saura vous le dire, hein, pour le WISC.
D'accord.
Oui. Mais voilà, ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller voir un psychologue spécialisé sur les hauts potentiels. Vous me dites que c'est sur Bordeaux, je pense que sur Bordeaux, vous devriez en trouver assez facilement.
Il faut qu'on regarde sur Internet en mettant cette indication.
Oui, c'est ça, exactement. Hein, parce que d'accord. C'est vraiment les psychologues qui feront passer les tests, parce que, je vous dis, c'est une histoire de QI, mais pas que, c'est aussi une histoire de personnalité. Ils vont regarder la sensibilité, le parcours de vie, la créativité de l'enfant. Et les tests que le psychologue va faire passer, donc ce WISC-5 pour les enfants, va mesurer la compréhension verbale, savoir le langage, le vocabulaire de l'enfant. Est-ce qu'il a un vocabulaire qui est conforme aux enfants de son âge, ou un vocabulaire qui est beaucoup plus développé?
Il est surprenant. Il nous reprend sur tout. Tous les mots doivent être justes. Mais quand il est en colère, en revanche, il nous traite comme si on était des moins de rien. Et 5 minutes après, c'est fini.
Oui,
on est formidable.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'un psychologue sera bien adapté pour vous répondre. Regardez peut-être aussi, pourquoi pas, le trouble du déficit de l'attention. Ça peut générer parfois des colères aussi.
Mais
je vous dis, moi, je ne suis pas psy, donc je m'engagerai pas sur ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, effectivement, sur le haut potentiel, c'est qu'ils vont mesurer également l'indice de raisonnement. Est-ce que la personne est logique ou pas? pas la mémoire, parce que la mémoire est une des caractéristiques aussi.
Il est logique, il a de la mémoire.
Voilà, la mémoire, c'est une des caractéristiques, mais voilà, on va pas faire effectivement un diagnostic à la radio aujourd'hui. Donc c'est vraiment un psychologue spécialisé HPI qui sera et qui vous fera passer, enfin, qui fera passer les tests à l'enfant et qui vous fera un rapport de ce qu'il en déduit.
Donc c'est pas un neuropsychiatre.
Non. Non, non, c'est psychologue HPI.
Voilà Yolande, merci beaucoup.
Merci.
Belle journée à vous, merci d'avoir appelé.
Merci beaucoup.
Merci, 05 46 50 67 68 pour venir témoigner sur cette antenne jusqu'à 10h et parler des hauts potentiels intellectuels qui peuvent vous entourer dans votre famille. Patricia, on y reviendra dans quelques secondes, mais il y a beaucoup d'idées préconçues hein, sur les HPI.
Tout à fait.
Quoi, par exemple, si on peut en donner
On va dire déjà, il a une grosse tête, hein, ouais. Le potentiel intellectuel, c'est bien connu. Il a des lunettes avec des verres très épais, les cheveux en bataille, très fort en maths. Et puis alors surtout, il a décroché son bac à 14 ans avec la mention très bien. Chercheur en physique nucléaire, nul en sport, associable et une culture encyclopédique.
Eh ben écoutez, on essaie de démystifier tout ça dans quelques secondes sur France Bleu La Rochelle.
9h-10h, France Bleu La Rochelle à votre service. Dorian Barré.
À votre service, jusqu'à 10h sur France Bleu La Rochelle, on évoque les hauts potentiels intellectuels ce matin. Si vous souhaitez témoigner, 05 46 50 67 68, vous êtes les bienvenus. Avec Patricia Kless, notre invitée, coach en développement professionnel. Alors Patricia, on parlait des préjugés, des idées préconçues sur les hauts potentiels intellectuels. Vous avez dit, voilà, la grosse tête, les lunettes, les cheveux en bataille. Mais tout ça n'a rien de vrai, on est d'accord.
Mais tout ça n'a rien de vrai, bien sûr. Vous pouvez en avoir, effectivement, qui ont ces caractéristiques. Mais je dirais que ça peut toucher, effectivement, toutes les classes sociales, hein, le haut potentiel intellectuel. On a autant de garçons que de filles. Et puis, vous pouvez avoir des personnes un petit peu comme Christian qu'on a eu tout à l'heure qui vont s'ignorer parce qu'ils sont noyés dans la masse. Donc il y a vraiment toutes sortes de personnes qui peuvent être concernées. Voilà. Une chose sur laquelle j'insisterai aussi, parce qu'on va parler des hauts potentiels dans l'école, effectivement, dans les classes, on va les reconnaître, mais ça ne s'arrête pas à 18 ans. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une caractéristique que l'on va avoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc après, on retrouve effectivement des caractéristiques qu'on va identifier dans les entreprises également.
Ouais, les entreprises, on y reviendra tout à l'heure en fin d'émission, bien évidemment. Mais voilà, toutes ces idées, faut les casser dans tous les cas.
Toutes ces idées, il faut les casser, tout à fait. Oui,
on est bien d'accord. Bah tiens, justement, on a Vanina qui nous rejoint. Bonjour Vanina.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
De Saint-Césaire.
À Saint-Césaire, très bien. Et vous, votre fils est HPI, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Il a été détecté HPI il y a 4 ans et demi. Il a 16 ans aujourd'hui, il prépare son bac de français. Voilà, moi je voulais témoigner sur le fait où c'est pas que scolaire et que c'est aussi à la maison qu'on le ressent.
Ouais.
Et que c'est vraiment pas facile à vivre. Sur le fait où il a une grande sœur et qu'il a fallu vraiment l'intégrer dedans et non pas la laisser à part, c'est complètement... c'est très compliqué. Les HPI sont très très compliqués déjà à comprendre pour nous parents. C'est très très dur à vivre sur le fait où on les comprend pas forcément. Moi, je sais que ça s'est déclenché, en fin de compte, au décès de mon beau-père. Mon fils jouait avec sa sœur, tout simplement, et sa sœur est arrivée en courant à la maison en me disant « Maman, Nathanaël sait lire ». J'ai dit « Mais ah non, étant à son âge, quand même, il est en grande section, je lui déchiffre ». Et en fin de compte, le gamin il s'est pointé à la maison avec le livre à sa sœur, il m'a lu 3 pages. Il manquait que la ponctuation, et là, j'ai dit, je me posais vraiment des questions. Je me suis rapprochée de son instituteur, et il m'a dit, oui, je me suis aperçue de quelque chose, mais il dit, aujourd'hui, nous, en tant qu'enseignants, on a les pieds et mains liés, ils peuvent plus rien faire de ce côté-là. Ils sont obligés d'attendre que les parents se rendent compte de quelque chose, pour pouvoir déclencher un test, donc il a été vu par la psychologue scolaire. Voilà, donc avec les tests, le WISC justement, et voilà, ils sont aperçus, il avait 132 de QI, il avait 4 ans et demi.
Justement, vous dites 132, Patricia, comment on est, enfin, qu'est-ce qui change entre un QI à 100, un QI à 132, un autre à 150, quelle est la différence?
Alors, je dirais que la norme, enfin, la norme entre guillemets, donc ça, on travaille autour de ce qui s'appelle une courbe de Gauss, hein, pour les mathématiciens, voilà, hein, effectivement. Donc, je dirais la norme entre guillemets, enfin, c'est 100, on part d'une base 100, et puis plus on s'éloigne effectivement de cette base 100 vers le haut, moins on a de personnes qui se retrouvent effectivement dans les QI à 130, etc. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer contaminée, qu'on a 2,5 à 3% de la population qui est au-delà du QI de 130. Au-delà de 130, donc on va parler de haut potentiel, et puis au-delà de 145, on va parler de très haut potentiel intellectuel, sachant qu'effectivement les tests aujourd'hui mesurent jusqu'à 160. Donc quand vous entendez parler de QI à 180, ça peut être sur des tests américains, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, les Américains vont parler de QI au-delà de 160. Effectivement, nous, avec les tests qui sont utilisés en France, on ne va pas au-delà de 160. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas plus que 160, elle a peut-être plus que 160, mais on ne peut mesurer que jusqu'à 160. Voilà.
Très bien. Donc Vanina, aujourd'hui, votre fils, il est HPI, et dans son comportement, est-ce que vous arrivez à mieux gérer ça au sein de la famille, en tout cas ?
Non, je trouve que c'est de plus en plus compliqué, parce qu'en fait, il essaie maintenant de s'identifier vraiment aux jeunes de son âge, il voudrait être comme eux, mais en même temps, ça déclenche beaucoup de tension sur le fait où on sait très bien comment il est, mais il veut pas le faire voir, il veut pas le montrer. C'est très très compliqué à comprendre ce sens-là.
Très bien. Vanina, il y a Patricia, il y a
oui.
des.
Alors moi, ce que je pourrais éventuellement vous conseiller, Vanina, c'est peut-être aussi d'essayer de voir si de votre côté il existe des groupes de parole, parce qu'aujourd'hui il existe des groupes de parole pour les adultes qui sont mis en place. Moi, en l'occurrence, j'en ai mis un du côté de Niort en place, et je trouve que c'est important parce que ça permet de se retrouver entre soi, entre guillemets, pour un moment donné, un moment hors du temps, et puis ça fait du bien, et puis après se replonger dans la vie quotidienne, parce qu'on évolue dans un environnement, il faut aussi savoir s'adapter à cet environnement. Mais effectivement, la suradaptation peut être compliquée pour votre fils, donc ça peut être bien qu'il arrive à côtoyer des enfants qui fonctionnent comme lui. Moi, c'est un conseil que je pourrais peut-être vous donner.
Oui, alors il y en a une dans sa classe, justement, il me le disait. Ils se sont rapprochés, et c'est vrai que tous les deux, ils arrivent à se comprendre, mais les enseignants ne cherchent pas à les comprendre, en fait. Et ça, c'est super compliqué pour eux.
Les enseignants ne sont pas toujours formés, effectivement, à accompagner ces diversités, que ce soit ça ou d'autres diversités, qui sont des différences invisibles. Donc souvent, à partir du moment où c'est invisible, ça n'existe pas. Mais malheureusement, si, ça existe. Donc c'est important que les enseignants, effectivement, moi c'est un petit peu ma mission, entre guillemets, c'est que je souhaite que ce soit effectivement côté enseignant ou dans les entreprises, ce soit quelque chose qui soit connu, reconnu et pris en compte. Mais sans pour autant, effectivement, toujours se caractériser comme étant à haut potentiel, effectivement.
En fait, ma question du jour, c'était est-ce que le haut potentiel peut être héréditaire, en fait ?
On retrouve effectivement dans les familles des personnes à haut potentiel, on retrouve des lignées. Après, effectivement, vous allez peut-être, en creusant un peu, vous apercevoir qu'il y a un grand-père, tiens, qui fonctionnait un petit peu comme ça, ou la grand-mère, pourquoi pas.
Ma maman, elle fonctionnait énormément comme ça, c'est pour ça qu'il était très complice avec elle. Ça, c'est vrai qu'ils se comprenaient toujours tous les deux, ça c'est sûr.
Voilà, vous avez la réponse, Vanina. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
Belle journée, à très bientôt.
Merci,
Sarah nous rejoint dans un instant. Elle a 4 enfants qui sont HPI. Elle nous racontera son histoire sur France Bleu La Rochelle. Continue de parler des hauts potentiels intellectuels jusqu'à 10h à votre service sur France Bleu La Rochelle. Vos témoignages au 05 46 50 67 68 et notamment celui de Sarah qui nous rejoint. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour.
Alors vous avez 4 enfants à la maison, dont certains qui sont HPI. Vous avez plusieurs situations différentes, en tout cas à la maison, c'est ça hein ?
Ouais, je confirme. J'ai 4 enfants, dont 3 sont HPI, une est HPI et a un TDAH aussi, et le petit dernier qui a une dysphasie, c'est un trouble du langage.
Très bien.
Je suis plutôt bien lotie en HPI.
Justement, en tant que parent, comment on gère tout ça ? J'imagine que c'est pas simple du tout.
Alors, en tant que parent, il faut être hyper disponible. Après, la différence que j'ai avec, je pense, d'autres parents, c'est que je suis moi-même HPI, donc pour moi, mes enfants fonctionnent normalement.
D'accord.
En tout cas, dans notre norme. Donc, ça n'a jamais été problématique. C'est des enfants qui sont hyper curieux, avec des questionnements incessants. Ils sont souvent en négociation. Je dirais même qu'ils sont perpétuellement en négociation. Ils ont des oreilles qui traînent partout. Ils ont un avis sur tout. Comme le disait votre invité, je confirme, ils sont pas conformes. Du tout, le conformisme ne leur va pas. Ils ont un vocabulaire qui est très développé et même tout petit, ce qui peut être assez surprenant. D'où effectivement le décalage avec d'autres élèves de leur âge. Et ils sont toujours en recherche des adultes. C'est beaucoup plus simple pour eux d'être entourés d'adultes que d'enfants qu'ils trouvent souvent bêtes.
Ouais, ça, c'est sûr. Mais on parlait justement du côté héréditaire. Là, on est en plein dedans, Patricia.
Ah bon, on est en plein dedans, d'après ce que nous dit Sarah, qui effectivement, nous dit qu'elle est concernée également par le haut potentiel. Oui.
Donc, comment, est-ce que vous avez un conseil peut-être à apporter à Sarah ou des indications?
Je pense pas avoir apporté. Ouais. De ce que j'entends, effectivement, Sarah est bien au fait de ce que recouvre le haut potentiel intellectuel, mmh. voire les autres troubles de ce qu'on appelle la diversité cognitive. Donc non, je pense pas avoir de conseils particuliers à donner à Sarah, qui effectivement peut-être aussi peut nous apporter quelques informations ou
Totalement.
Quelques éléments sur le, je dirais aussi l'adaptation dans le monde extérieur.
Oui, alors je dirais que effectivement avoir des enfants testés, c'est plus facile pour entrer en discussion avec l'éducation nationale, pour faire comprendre que ces enfants ont des besoins particuliers, ils ont besoin d'être souvent stimulés. Parce que l'ennui, malheureusement, l'ennui arrive vite et quand les enfants commencent à s'ennuyer, ben ils décrochent vite et ça leur devient comme insupportable. Et après, ce sont les clowns de la classe. Donc ça peut être très compliqué. C'est des enfants qui ont du mal à justifier leur raisonnement. Ils ont des choses qui pour eux sont logiques. J'ai souvenir de ma fille en maths qui me disait « Mais maman, je peux pas expliquer comment j'y arrive. Le résultat est juste, on devrait s'en contenter. » Donc attirer l'attention des enseignants sur ça, je pense que ça peut les aider, ces enfants-là. Ça peut les aider à mieux s'adapter dans ce cadre qui est des fois un petit peu trop rigide pour eux et dans lequel ils ont du mal à remplir.
Et ils sont encadrés, vos enfants, à l'école pour tout ça, Sarah ? Ils sont encadrés à l'école par des professionnels ?
Alors disons que mes enfants maintenant sont grands, donc la plus âgée a 25 ans, et à l'époque, parler de haut potentiel, c'était juste une lubie, elle était surtout mal élevée, et c'était la faute de sa mère en gros.
Donc, d'accord. Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses et les enseignants ont beaucoup plus accès à des choses pédagogiques pour aider ces enfants-là, parce que il y en a qui effectivement ils ont souvent peur de l'échec parce qu'ils manquent de confiance en eux et ils vont y remédier différemment. Il y en a qui vont être les premiers de la classe pour s'assurer que il y aura pas de soucis, que ils sont tellement perfectionnistes qu'il y aura pas de problème. Quant à d'autres, cette peur de l'échec prend des allures d'opposition aux enseignants. Et ils ne vont pas travailler au risque de ne pas y arriver. Surtout, ils ne vont pas se mettre en difficulté. Donc, le fait qu'un enseignant puisse avoir ça en tête peut les aider dans leur façon d'appréhender ces enfants-là.
Oui, il y a une véritable évolution dans l'éducation nationale, Patricia.
Oui, ça évolue effectivement. Ça évolue peut-être pas forcément aussi vite que le souhaiteraient les parents. Et ça évolue pas forcément partout pareil. Et par rapport à ce que disait Sarah, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est effectivement, on n'a pas forcément que des enfants en échec scolaire. On peut en avoir qui réussissent très bien. Il faut être vigilant dans le rapport à l'autorité aussi. C'est ce que disait Sarah, parce que les enfants au potentiel vont tendance à avoir et les adultes également par la suite, à questionner le sens. Ils ont besoin de comprendre le pourquoi du comment. Donc effectivement, le rapport à l'autorité peut être parfois un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de mon point de vue que les enseignants soient formés et par la suite, effectivement, on reviendra tout à l'heure dessus dans les entreprises également.
Très bien, et ben écoute, en tout cas, c'était un beau témoignage. Merci beaucoup, Sarah.
Avec plaisir, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, merci de nous avoir appelés. Claire va nous rejoindre dans un instant, elle est ancienne salariée et maintenant elle est à son compte. Et justement, eh bien, le haut potentiel intellectuel, Patricia, c'est aussi important dans l'entreprise. Voilà, il y a une façon aussi de les intégrer parce que c'est pas toujours simple et on y revient dans un instant sur France Bleu La Rochelle, ne bougez pas. Avec Patricia Kless, notre invitée, coach en développement professionnel, Elios Coach, je le rappelle, vous occupez des personnes à haut potentiel intellectuel, c'est bien ça, on est d'accord?
C'est ça, tout à fait, j'accompagne des personnes dans la sphère professionnelle.
Totalement, et justement la sphère professionnelle, on y vient tout de suite, puisque les hauts potentiels c'est aussi dans l'entreprise, avec Claire qui nous rejoint, bonjour Claire.
Bonjour Dorian, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alors vous êtes ancienne salariée et maintenant vous êtes à votre compte. Justement, comment on peut, juste avant que vous nous racontiez votre histoire, Patricia, comment on peut intégrer les hauts potentiels correctement dans une entreprise, j'ai envie de dire, parce que j'imagine que c'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine.
Alors pour les intégrer, c'est déjà avoir conscience de ce que ça représente, de ce que ça recouvre le haut potentiel, et puis, parce que c'est une diversité qui est invisible, donc c'est déjà en avoir conscience, et puis c'est effectivement mettre quelques mesures en place, c'est un management particulier, ça peut être, enfin il y a beaucoup de, il y a un accompagnement qui peut être spécifique pour le haut potentiel. qui devrait être mis en place, mais qui ne l'est pas forcément. On parle beaucoup aujourd'hui de diversité, d'inclusion dans les entreprises, mais c'est très très rare que ça recouvre effectivement l'accompagnement de la diversité cognitive.
Alors comment un haut potentiel peut être, quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer dans une entreprise ?
Alors il peut rencontrer, il a une différence d'intensité, donc c'est-à-dire qu'effectivement il ne va pas forcément réagir face à une problématique, il ne va pas forcément réagir comme les autres salariés. Il va avoir une différence d'approche, il va travailler beaucoup plus vite. Alors ça peut gêner effectivement les autres salariés aussi, parce qu'au bout d'un moment il va trouver une solution là où les autres ne l'ont pas toujours trouvé. Donc ça peut générer du rejet, tout comme on peut avoir du rejet dans les écoles, on peut avoir du rejet dans les entreprises. Il a une forte capacité de créativité, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut se retrouver aussi dans la conception de nouvelles solutions, de solutions qui sortent de l'ordinaire. C'est pas forcément toujours bien accepté aussi par un manager qui peut en prendre ombrage. Le haut potentiel, va avoir besoin aussi d'équité, non pas d'égalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de connaître dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas gérer tous les salariés de la même façon, mais savoir s'adapter effectivement aux caractéristiques de chaque salarié. Mais ça, je dirais, c'est valable que l'on soit haut potentiel ou pas. Mais c'est plus difficile à accepter pour un potentiel l'égalité s'il n'y a pas d'équité. Il a besoin d'équité. Ça, par contre, ça va tout de suite se ressentir parce qu'effectivement, il va y avoir des réactions que n'auront pas forcément les autres salariés.
Et il y a des efforts qui sont faits dans l'entreprise déjà.
Il y a des entreprises qui ont mis en place des réseaux de diversité cognitive, mais ça vient des salariés. Ça ne vient pas effectivement des RH, parce que je dirais il y a un peu une peur aussi autour du haut potentiel, parce qu'on s'imagine souvent les managers ont peur que la personne leur prenne leur place, alors que pas du tout. Le haut potentiel ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit, il va chercher au contraire, il a vraiment le sens de l'entreprise, il va chercher à apporter un maximum de solutions pour son entreprise.
Très bien. Claire, du coup, votre histoire, vous qui étiez ancienne salariée, maintenant à votre compte, comment le vous avez réussi à gérer votre haut potentiel dans l'entreprise ?
Alors, c'est un vrai sujet, et puis déjà merci beaucoup de nous permettre de nous exprimer sur cette thématique. Alors moi j'ai réussi, quand aujourd'hui je le vis très très bien, parce que en étant indépendant, ça me permet d'être complètement autonome, d'être libre de mes choix, et puis surtout de pouvoir choisir mes clients et les sujets sur lesquels je veux travailler, et donc d'être alignée avec mes valeurs et mes convictions, qui sont des choses assez essentielles chez nous. Mmh. Donc c'est une vraie liberté et c'est quelque chose de formidable. Je pense que je ne suis pas prête de revenir en arrière.
Bah, très bien. Du coup, vous préférez quand même être à votre compte plutôt que salarié dans une entreprise, si je comprends bien.
Alors, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'expliquait votre intervenante, parfois il y a des situations qui peuvent nous mettre en difficulté. Alors ça peut être managérial, ça peut être sur des sujets qui nous posent question, avec lesquels on n'est pas aligné. Quand on est indépendant, après, il y a un contrat entre le client et nous, et donc on a une liberté de ton. Et puis, on maîtrise aussi, en fonction du contrat, mais la temporalité, c'est-à-dire la durée de la relation. Donc, si on est, complètement aligné, c'est parfait. Et si, par contre, c'est problématique, on a des portes de sortie, et puis on peut se diriger vers des secteurs qui nous sont plus favorables ou des équipes qui ont davantage envie de travailler avec nous.
Bon bah vous êtes aidé en tout cas tout de même, Claire, et maintenant vous êtes vous arrivez à vous en sortir, vous êtes heureuse, tout va bien.
Ah mais c'est formidable. Enfin moi j'avoue que être HPI en entreprise, c'est quelque chose qui c'est un peu un défi quotidien, mais dans mon métier, moi qui suis dans le conseil, ça me permet de mettre à profit à la fois mes atouts et puis également optimiser les relations avec tous mes collègues.
Eh bah, ben très bien, merci beaucoup Claire pour ce beau témoignage.
Merci Dorian.
À très bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Patricia, on manque de temps pour y dire encore tellement de choses sur le haut potentiel, mais vous reviendrez.
Ah mais avec plaisir Dorian.
Merci d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On vous contacte comment si on veut avoir plus d'infos, Helios Coach?
Vous pouvez trouver mon site web, Helios Coaching, ouais. Patricia Claes, vous tapez Helios Coaching HPI, Patricia Claes, je suis sur la région de Niort.
Eh bah, très bien, c'est noté. Merci Patricia et belle journée à vous.
Merci Dorian.
À votre service, ça revient demain. Et bienvenue chez vous, c'est juste après les infos de 10h.